Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
C'est bon les micros, ça?
Ouais,
ça fonctionne.
Ouais.
Très bien.
Le temps que les dernières personnes arrivent, écoutez ce que je vous propose. Qui ne connaît pas le fonctionnement du Café Filon? Alors je vais vous présenter très rapidement. D'abord je me présente, moi je suis Nicolas Déré. J'anime le Café Filon depuis quelques années maintenant, un mois sur deux avec Laurence.
Enchantée, ravie, bonsoir.
Et donc, je suis moi professeur de philosophie au lycée Jean Zay et Laurence, professeur de philosophie au lycée Voltaire à la Source. Voilà. Et puis cette année, on va avoir deux autres animateurs qui vont venir. Bon, on va avoir Sylvain et puis Mario de Lapin. Le fonctionnement, il est relativement simple. Il n'y a pas de sujet qui soit proposé à l'avance. Enfin, les micros sont un peu capricieux. Donc, pas de sujet qui soit proposé à l'avance. C'est vous qui allez proposer des questions. Si on ne parle pas de micro, ça va être un peu compliqué. C'est vous qui allez proposer donc des questions qu'on va noter et ensuite on va procéder à un vote pour savoir quelle thématique, quelle question fera l'objet du débat ce soir. Sachant que vous pouvez voter pour autant de sujets que vous souhaitez, si tous les sujets proposés vous plaisent, eh bien écoutez, vous votez pour chacun de ces sujets. On va faire passer les micros et puis on va recueillir vos propositions. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous manifester.
Nicolas, je veux bien commencer. Je veux bien commencer. Moi, première question. Est-on libre sans la conscience de l'être?
Est-on libre sans la conscience de l'être? Première proposition.
Peut-on avoir chacun sa morale?
Peut-on avoir chacun sa morale?
Il n'y a au fond de capital que l'humanité.
Il n'y a au fond de capital
que l'humanité.
Que l'humanité. Il n'y a au fond de capital que l'humanité.
Et peut-on vivre sans souffrance ou bien est-ce inéluctable?
Alors deux sujets. Il n'y a au fond de capital que l'humanité.
Oui.
Et l'autre sujet, c'est peut-on vivre sans souffrance ou est-ce inéluctable?
La guerre est-elle un produit inévitable de la vie en société?
La guerre est-elle un produit inévitable de la vie en société? Là, on est déjà à 5 sujets.
Au contexte que l'on vit actuellement, le principe d'incertitude.
Le principe d'incertitude. Il n'est pas obligé de formuler une interrogation. Le principe d'incertitude.
Par rapport à la phrase « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme », peut-on est-ce impossible d'imaginer des futurs désirables? Oh, c'était mieux dans ma tête.
Peut-on imaginer des futurs désirables?
Est-ce impossible de les imaginer?
D'accord. Alors, plutôt la négative. Est-ce impossible d'imaginer des futurs désirables? Comme ça? Ok. Est-ce impossible d'imaginer des futurs désirables?
Futurs désirables, hein, c'est ça?
Des futurs désirables. Okay. Nous sommes à 7 sujets. Oui, bonsoir madame.
Bonsoir. À quoi sert l'histoire?
À quoi sert l'histoire? À quoi sert l'histoire?
Oui.
Sommes-nous esclaves de notre soif de liberté?
On note comme un paradoxe Sommes-nous esclaves de notre soif de liberté ? Nous sommes à 9 sujets, peut-être pas 15 non plus, parce qu'après il faut voter. Sinon.
Oui.
Sachant qu'on va vraiment s'arrêter à 20h30 ce soir, pour laisser la parole aux invités, et ensuite aller vers le petit pot, donc on ne pourra pas très bon. Pardon monsieur.
Je vous en prie. Est-ce que notre libre arbitre est si libre que ça ?
Est-ce que notre libre arbitre est
si libre ?
Est-ce que notre libre arbitre est si libre que ça ? Notre libre arbitre est-il si libre que cela ? Pas mal de sujets sur la liberté.
Est-ce que notre libre est-il si libre que ça ? C'est ça, est-il si libre que ça ?
Le couple a-t-il encore un avenir ?
Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ça.
On a 11 sujets.
Vous avez la question. Le couple a-t-il encore un avenir ?
Ou notre, le couple. On a 11 sujets là, hein, déjà.
Ah, 11 sujets, ça va aller ? Ah, pardon, madame, oui. Non, mais vous ne seriez pas, vous ressortiez pas frustré en disant j'ai pas eu l'occasion de proposer la question. Allez, on s'arrête à 12.
Alors, j'en avais deux en tête, mais du coup, je ne sais pas lequel choisir. Bah, je vais essayer. Le premier, c'était face au réchauffement climatique, pourquoi réagit-on si peu ? Et le deuxième, c'était est-ce que coucher, c'est tromper ?
Oui, est-ce que c'est un sujet philosophique ?
Alors, face au réchauffement climatique. Effectivement, deux sujets qui ont peu de choses à voir.
Ouais.
Visiblement, ça suscite de l'intérêt.
Bon,
alors,
donc...
face au réchauffement climatique, pourquoi réagit-on si peu ? Face au réchauffement climatique, pourquoi réagit-on si peu ? Alors, on va dire que c'est 13 à la douzaine.
Quoi ?
Et le dernier, donc, coucher, est-ce tromper ?
Enlever celui-là, là, oui.
Non, on peut poser.
On en a 13, oui.
Okay. Allez, 13. Donc on va vous redonner les sujets, puis vous votez pour les sujets qui m'intéressent.
Ok. Non, je ne sais pas. Oui, je pense, ça marche, non ? Non, je l'allume. Oui, c'est bon. Ça marche, là ? Non, ça marche
oui,
pas.
Si.
Si, ça marche. Alors, premier sujet, est-on libre sans la conscience de l'être ? Deuxième, peut-on avoir chacun sa morale ? Troisième, il n'y a au fond de capital que l'humanité. Quatrième, peut-on vivre sans souffrance ou est-ce inéluctable ? Cinq, la guerre est-elle un produit inévitable dans la vie en société, de la vie en société ? 6. Le principe d'incertitude. 7. Est-ce impossible d'imaginer des futurs désirables ? 8. À quoi sert l'histoire ? 9. Sommes-nous esclaves de notre soif de liberté ? 10. Est-ce que notre libre arbitre est si libre que ça ? 11. Le couple a-t-il encore un avenir ? 12. Face au réchauffement climatique, pourquoi réagit-on si peu ? Et 13. Coucher est-il trompé ?
Alors, premier sujet.
Premier sujet. Est-on libre sans la conscience de l'être ? Deuxième sujet. Peut-on avoir chacun sa morale ?
Quinze, onze, dix.
Trois. Il n'y a au fond de capital que l'humanité.
Mmh.
9.
4.
13. 4. Peut-on vivre sans souffrance ou est-ce inéluctable ? La guerre est-elle un produit inévitable de la vie en société ?
13.
6. Le principe d'incertitude.
7.
7. Est-ce impossible d'imaginer des futurs désirables ?
8.
2.
À quoi sert l'histoire ?
11. 16.
Sommes-nous esclaves de notre soif de liberté ?
9.
Est-ce que notre libre arbitre est si libre que ça ?
7.
6.
Le couple a-t-il encore un avenir ?
16.
Ah, 13 et 16, c'est bien 29. Hein. On est d'accord. Face au réchauffement climatique, pourquoi réagit-on si peu ? Et dernier sujet, coucher est-il trompé ? Sujet qui emporte 29 fois, hein, parce qu'il y a 26, 28, 29, et bien c'est le couple a-t-il encore un avenir ?
Écoutez, très bien.
Voilà.
Alors, Yann ?
Oui. Hein.
Juste deux petits rappels, on doit vraiment terminer à 20h30. Ce qu'on je vais vous demander, c'est d'abord de laisser la parole d'abord à celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà prise, pour que tout le monde puisse participer, enfin pour celles et ceux qui souhaiteraient, et puis d'être concis si possible dans les interventions, pour qu'on puisse faire le tour de la question. C'était vous, je crois, madame. Voilà. Alors, il y a une petite tradition, mais c'est une tradition de philosophie qui, à mon avis, est tout à fait légitime, mais c'est de vous laisser la parole. Pour savoir finalement qu'est-ce qui vous anime dans cette question et pourquoi est-ce que vous nous l'avez proposé. Et puis visiblement, vous voyez, vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question.
Oui, c'est trompé.
Pour la prochaine fois, on vous donne un capital de voix pour la prochaine fois. Donc tu n'étais pas certaine. Bon. Alors, principe d'incertitude. C'est vrai, monsieur. Le principe d'incertitude.
Oui. Mais comme j'ai dit que c'était en résonance avec l'actualité, je suis pas trop. Non, mais c'est ça, c'est par rapport au contexte actuel que l'on vit, hein, politiquement, les ramifications sociales que ça a, et l'avenir qui est engagé. Donc tout ça, oui, on est dans un contexte d'incertitude assez. Oui, c'est une ambiance sous-jacente, ça peut même être sournois, je ne sais pas ce que ça remonte depuis longtemps ou c'est tout récent, mais voilà, est-ce que ça va perdurer? Voilà. Oui, l'inquiétude, c'est sûr.
Merci. Donc ce que je note dans votre première intervention liminaire, vous me dites si je trahis votre pensée ou pas, hein, c'est que cette situation d'incertitude serait actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça serait une sorte de caractéristique, en tout cas de trait de notre situation personnelle ou collective. Et puis, vous avez terminé par dire que cette incertitude dans laquelle nous serions aujourd'hui placés pourrait nourrir un fond d'inquiétude. C'est pas forcément une incertitude qui soit dynamique ou positive, mais une sorte d'inquiétude, d'angoisse, en gros, du lendemain, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Peut-être vous laisser la parole avant de dégager la notion d'incertitude, enfin d'essayer de travailler sur cette notion. Oui.
Est-ce que on n'a pas vécu au cours des dernières décennies dans une illusion de certitude et de sécurité, et que aujourd'hui les choses, la réalité nous rattrape, alors qu'on aurait pu peut-être s'imaginer ne pas être du tout dans une sécurité ou dans certaines certitudes.
Une sorte d'imprévoyance.
Oui, on dirait d'irréalisme.
D'accord. Une sorte d'illusion. Oui, monsieur.
Moi, il me semble que l'incertitude, c'est assez propre à la conscience, dans le sens où l'humanité se pose des questions, il y a toujours un certain, et on pourrait même se demander si on n'a pas.
Ouais, les micros sont vraiment capricieux ce soir.
Si on n'a pas inventé, par exemple, des religions pour donner des certitudes aux grandes visions existentielles, on va dire que les incertitudes de la conscience, c'est à quoi sert l'existence, rien que ça. On va vers la mort, qu'est-ce que c'est après la mort? On se pose énormément de questions, donc on a des incertitudes matérielles, immédiates, politiques, mais aussi toutes ces incertitudes existentielles. Voilà. Et puis après, sur le principe d'incertitude, on peut parler du chat de Schrödinger. Pour s'amuser un peu scientifiquement, si on veut. C'est-à-dire que le principe d'incertitude, c'est un concept de physique quantique dans lequel, en fait, les observations intra-atomiques sont à des niveaux d'incertitude entre les éléments de célérité et position. Qui fait qu'on ne peut pas, par l'observation scientifique à des échelles infinitésimales, connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule. et Schrödinger, le scientifique, donc, avait appliqué une analogie pour expliquer ça à l'échelle macroscopique en disant que cette incertitude sur les particules, c'est comme si on mettait un chat dans une boîte fermée avec une fiole de poison et on ne sait pas à l'instant T observer si ce chat est vivant ou mort. Il est donc à l'état à la fois mort et vivant dans un état d'incertitude.
Merci pour l'éclairage scientifique. Juste un petit point avant de donner la parole. Bon, il me semble que ce que vous ajoutez par rapport aux premières interventions, c'est finalement le caractère, si je voulais employer des mots grandiloquents et un peu techniques, le caractère ontologique de l'incertitude, c'est-à-dire qui serait lié à la condition même du vivant et de ce vivant spécifique que nous sommes, c'est-à-dire ces vivants doués de logos, ces vivants doués de conscience. Comme le disait Aristote, les futurs sont contingents. Les futurs sont contingents, c'est-à-dire que le futur, il peut être ou ne pas être. Et pour le dire très simplement, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et ça, ce n'est pas lié à une situation en particulier. Bon, après, on pourra peut-être insister sur le caractère spécifique de l'époque que nous vivons et que nous traversons. Mais ça n'est pas lié à un caractère, enfin, à une situation, à une époque propre. C'est lié à la condition même de l'existence. C'est-à-dire que le passé est nécessaire, il a été, il ne peut pas ne pas être ce qu'il a été, le passé. Le présent, il passe. Et le futur, il est à venir. Il est à venir, il n'est pas encore écrit, il est par définition contingent, il pourrait être ceci ou être cela. Et finalement, nous sommes, ontologiquement, nous sommes d'un point de vue existentiel, même dans la conscience que nous prenons de cette dimension de la condition humaine, nous sommes condamnés à l'incertitude. Alors, on peut trouver, effectivement, et en plus, il y a un ancrage scientifique que vous avez évoqué. Nous pouvons, alors, vous avez commencé à l'évoquer, nous cherchons peut-être, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, à trouver une assise pour faire face à cette incertitude, une assise psychologique, une assise morale, sociale. Ça peut prendre la forme, vous l'avez évoqué, des croyances religieuses. Ça peut prendre la forme de la science, qui dégage des lois de la nature, qui dégage des probabilités. Ça peut prendre la forme de la voyance, ça peut prendre la forme de toutes ces formes finalement de tentatives pour l'humain de tracer une voie dans un temps à venir qui est par définition incertain. Et finalement, l'un des défis qui se pose à la condition humaine, au-delà de l'époque encore une fois, dans laquelle nous vivons, c'est finalement comment faire face à l'incertitude. Cette incertitude est-elle nécessairement source d'inquiétude? Et cette inquiétude est-elle bénéfique ou au contraire néfaste? Faut-il absolument se débarrasser de l'incertitude? Ou est-ce qu'au contraire, n'y a-t-il pas finalement une sorte de valeur intrinsèque à l'incertitude? Est-ce que c'est pas l'incertitude? On a vu ce soir qu'il y avait quelques sujets sur le thème de la liberté. Est-ce que ça ne serait pas l'incertitude finalement qui donnerait le prix de la liberté, qui donnera un sens à notre vie? C'est précisément parce que rien n'est écrit pour demain que tout reste à faire. Donc vous voyez, est-ce qu'on donne une valeur négative ou positive à cette certitude? Est-ce qu'il faut nécessairement chercher à la réduire à minima? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'en réjouir? Et comment s'en réjouir si elle est à la fois source d'angoisse et en même temps source d'un horizon qui reste à définir?
Merci Nicolas, tu as devancé un petit peu mon propos. Bon, moi je voudrais simplement inverser le terme incertitude par certitude.
Dans le micro.
Voilà. C'est pas sympa quand on sort de sa zone de confort, effectivement. Je crois que de plus en plus on évolue dans un monde dirigé ou influencé par des gens bardés de certitude, jusqu'à tordre le cou de la réalité factuelle et à s'inventer des contre-vérités, des contre-réalités. La technologie numérique le permet maintenant. On est inondé de fausses informations et on a le sens de... Certains ont, on va dire, l'esprit assez tordu pour inverser la réalité, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos incertitudes? Est-ce qu'on doit les remettre dans les mains de ceux qui sont bardés de certitudes? Voilà, c'est un petit peu la question d'aujourd'hui. Merci.
Est-ce qu'il faut vraiment vouloir la certitude? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas au contraire se méfier, se libérer des certitudes?
Oui. Après, vous l'avez dit tout à l'heure, mais la certitude, elle est relative à des champs. Le champ du passé est certain. Pour le champ de l'avenir, c'est assez étonnant de parler de certitude. Alors, ça arrive un peu plus tôt que je pensais dans le débat, mais en termes d'avenir, il y a une certitude, c'est qu'on va mourir. Et c'est à peu près la seule. Effectivement, tout le reste, l'avenir, c'est que des possibles, avec une conclusion qui est identique pour tous depuis le début de l'histoire de l'humanité, qui est la mort. Et donc, c'est peut-être la seule certitude, en tout cas concernant le futur, qu'on puisse avoir.
Et encore.
Non, mais je dis ça sans plaisanter, sans provocation. Et encore, le rêve, le fantasme, le projet transhumaniste, c'est précisément de nous laisser espérer ou craindre, peu importe la façon dont on le juge, en une vie qui ne serait pas éternelle, mais en tout cas en un homme immortel. Je suis né un jour et je ne mourrai plus, sauf par accident, sauf par mort volontaire, sauf par meurtre, mais les progrès de la science seront tels que l'homme qui vivra 1000 ans serait peut-être déjà né. Et donc finalement, le projet transhumaniste, tu parlais de ceux qui sont bardés de certitude, c'est précisément de nous laisser croire, espérer ou au contraire se lamenter, encore une fois, peu importe le jugement que l'on porte sur ce point, que la mort ne serait qu'un pronostic. Que Socrate fut mortel, c'est avéré, il est né, il est mort. Que les hommes soient mortels, jusqu'à présent, c'est avéré, c'est certain, oui. Tous les humains qui sont nés sont morts. Que les humains à venir soient mortels, d'aucuns vous diraient que ça reste incertain. Effectivement, là, on est peut-être sur le trait d'une époque, où même cette certitude fondamentale qui est que je suis né, je vis, et donc je meurs, puisque chaque vie, chaque jour me conduit à la mort, comme dirait Montaigne, cette certitude-là, qui est cette certitude existentielle, d'aucuns, encore une fois, nous laisse croire qu'elle n'est qu'un pronostic, qu'une hypothèse valable jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne serait pas forcément valable demain.
Pour aller dans la suite, notamment de ce que M. Devant disait, je trouve que ce qu'il y a de plus angoissant, en particulier aujourd'hui, c'est que, en effet, il y a pas mal de vérités qui sont balancées comme ça, ou de choses de gens qui sont totalement certaines. Mais là où vraiment j'ai l'impression que ce qui est particulier aujourd'hui, et ce qui est à mon sens très angoissant, c'est que j'ai l'impression que le statut même de réalité et principe de vérité et principe de réalité sont mis en question. Comme si ça n'avait aucun intérêt. On n'arrête pas de parler de fake news et compagnie. Enfin, par exemple, si on voit Trump qui est climato-sceptique et qui rejette clairement, en fait, comme si la réalité n'avait de valeur que si elle était dans le sens que certaines personnes, ou en tout cas ceux qui ont un certain pouvoir, veulent avoir, et qu'ils modèlent cette réalité en fonction de ce qu'ils ont envie. Et c'est assez angoissant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est faux, mais pour moi, c'est un monde un petit peu psychotique, en fait, de voir le monde en fonction de ses envies et plus en fonction du réel. Et on voit que c'est modelé aussi par ce qui est transporté par les médias, par un certain type de discours ambiant, de dire ben non, mais en fait, moi, le rapport du GIEC, je m'en fiche, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et que ça n'existe pas alors qu'il y a une réalité concrète, il y a des experts, il y a des scientifiques qui disent quelque chose, je trouve ça assez sidérant. Et je pense qu'il y a de l'angoisse aussi aujourd'hui par rapport à ce rejet, en fait, de la donnée scientifique, qui déjà, les scientifiques sont pas mal rejetés dans leur discours aujourd'hui, et de juste, en fait, les choses sont telles quelles, et il y a des personnes qui estiment qu'elles ont le pouvoir de remettre en cause ce réel.
Oui, une perte du réel. Effectivement, ça serait peut-être l'un des traits de notre époque, si on voulait contextualiser cette remise en cause de l'évidence même. De l'évidence même, un fait qui reste un fait, qui normalement s'impose à moi avec toute la force de sa certitude, qui force mon assentiment. Il y a bel et bien un réchauffement climatique. Effectivement, on est dans cette époque où on a une déréalisation des faits, et où finalement, ceux qui sont bardés de certitude, je reprends ton expression, il me semble très éclairante, imposent l'incertitude. Imposent l'incertitude, réchauffement climatique, quid peut-être, qu'une femme enceinte qui prenne du Doliprane donne naissance à un enfant autiste. On a ça dans la bouche d'un prénom, effectivement, et là, on est avec une certitude qui crée l'incertitude et qui nous plonge dans un monde où la distinction entre la réalité et l'irréalité n'est même plus évidente, n'est même plus certaine.
Bonsoir. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et qui a été un peu repris au premier rang aussi, en retournant un peu la question, et je me demandais en fait si on n'avait que des certitudes, comment on pourrait vivre même. Ça me fait penser par exemple à un truc tout à fait commun, le GPS par exemple, qui vous dit exactement à quelle heure vous allez arriver, combien il vous reste de kilomètres, etc. On se rend compte dans la réalité que ce n'est pas toujours forcément comme ça. Mais ça me faisait penser à ça, et puis surtout, cette question de n'avoir que des certitudes, ça me fait penser au totalitarisme, in fine.
Merci.
Mes amis, je vous le dis, il est inutile de courir après la certitude. Voyez-vous, notre quête de sens et de vérité est louable, mais néanmoins, malheureusement, elle est vouée à l'échec. Pour la simple et bonne raison que nous vivons dans une illusion. Car la réalité est conditionnée en fonction de notre perception du monde. Étant donné que notre perception du monde est limitée, notre perception de la réalité l'est aussi. Par exemple, lorsque vous rêvez, tout paraît réel, ce n'est qu'au réveil que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce faisant, comment pourrions-nous être certains, absolument certains, de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui vous garde que tout ce que vous voyez ici, ce soir, est bel et bien réel? Qu'est-ce qui fait que la réalité est réalité? Donc, finalement, ce faisant, étant donné que certitude est inaccessible, je vous encourage plutôt à cultiver votre incertitude, à remettre en question les dogmes, à remettre en question la certitude, à vous remettre en question, pour justement mieux, tenter de mieux appréhender la recherche de la vérité fondamentale. Merci.
Merci. Je me pose quand même une question. Je ne suis pas certain de...
Ouais.
Ce que vous dites, c'est que je vous invite à remettre en question les dogmes. Ouais. Et aussi à remettre en question le rapport à la réalité. Mais est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan? Est-ce que finalement, l'incertitude peut et doit aller... Je pose la question, je n'ai vraiment pas de réponse. Est-ce que l'incertitude peut aller jusqu'à remettre en question l'autorité établie, certes, d'accord, pas d'argument d'autorité, c'est plutôt l'évidence de l'autorité à remettre en cause que l'autorité de l'évidence. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à remettre en cause le rapport à la réalité elle-même?
Bien sûr.
C'est ça le... Enfin, voilà, je pose la question pour que l'Assemblée puisse réagir. Autrement dit, est-ce que cette incertitude peut se généraliser jusqu'à l'évidence même du réel, d'un 2 et 2 font 4, d'un... corps qui tombe, d'une loi de la physique, est-ce qu'on peut remettre en question cette certitude, ou est-ce qu'au contraire, il faut admettre que la réalité s'impose à moi, malgré moi, que la vérité s'impose à moi, qu'il y a une évidence du réel qui force mon assentiment, de sorte que renier ou nier cette évidence-là, ça serait s'enfermer dans sa certitude. Voilà. Madame, oui. On laisse plutôt la parole à celles et ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Pardon, monsieur, vous n'avez pas vu. Excusez-moi, ceci.
C'est amusant parce qu'en fait, ça, les propos qui précèdent, ça anticipait un peu ce que j'avais en tête. Je me posais la question, parce qu'on parle d'incertitude et de la nécessité d'avoir tout de même des certitudes. Et tout à l'heure, vous avez évoqué qu'on pouvait remettre en question le fait que nous allons mourir un jour. Donc on remet en question, on pose la question de la certitude de notre mortalité. Moi, j'aurais dit qu'on pouvait aller plus loin, et ça rejoint le propos qui a été mis, c'est qu'on pourrait aussi très bien mettre en douter de la certitude du fait qu'actuellement, nous sommes vivants. Il y a des travaux qui ont été menés par des chercheurs qui explorent la possibilité que nous soyons, j'en ai déjà parlé, dans une simulation informatique. Et donc, en fait, on touche au fondement de ce qu'on peut ramener à la pensée de Descartes, donc le « je pense, donc je suis ». Nous ici, nous pensons penser. Est-ce que ça suffit à confirmer le fait que nous soyons effectivement? Et donc là, le risque, bien sûr, c'est que quand on se pose ce genre de questions, on se perde dans une incertitude sans fin et qu'en fait, notre esprit ne puisse pas l'encaisser. Et donc, moi, la question que je me pose là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut, de manière raisonnable, avoir une certaine certitude? Qu'est-ce qui est raisonnable? De quoi peut-on être raisonnablement certain? Et qu'est-ce que l'on peut, à l'inverse, tolérer comme étant incertain, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, l'incertitude, ça peut aussi stimuler l'imagination pour ensuite construire le futur que l'on souhaite.
Oui, vous faites référence à des travaux, je parle, c'est moi qui me corrige si jamais je me trompe, de Nick Bostrom, dont d'ailleurs les scénaristes de Matrix, pour celles et ceux qui ont cette culture-là, se sont inspirés pour créer la trilogie. Et puis, je me rappelle plus le nom du philosophe, c'est ce qu'on appelle les cerveaux dans une cuve. Imaginons que votre cerveau, nous croyons être ici, là, bel et bien présent, comme vous le dites, mais peut-être sommes-nous des cerveaux qui sommes dans une cuve, branchés à des réseaux, qui nous laissent croire que nous sommes ici. Comment pourriez-vous vérifier que nous sommes bel et bien là? C'est impossible. Effectivement, là on entre en pleine incertitude et moi ça m'angoisse.
On va trop y penser. Là.
Madame.
Bonsoir. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que j'entends depuis tout à l'heure dans l'Assemblée, notamment par rapport à la certitude ou l'incertitude. Et je fais souvent le parallèle avec les convictions qu'on peut avoir également. Et je voudrais juste faire, alors ce n'est pas une définition, mais en tous les cas, c'est plutôt ce que j'en pense. Pour moi, la certitude, ça relève plus de l'état de pensée qu'on a chacun par rapport à un fait, un objet, des personnes, une vie en société, par rapport à une religion, par rapport à des mœurs, par rapport à un schéma et l'éducation qu'on nous a enseigné. Et donc, du coup, on ancre dans des certitudes fondamentales par rapport à notre histoire, par rapport à notre religion, par rapport à un tas de schémas qu'on nous a ancrés petit et qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai la certitude que... j'ai la certitude que cette chaise est belle, en fait, parce que ça correspond à certains critères que j'ai ancrés et par rapport à des goûts, et c'est stigmatisé par rapport à moi, en fait, c'est personnel. Et à contrario, pour moi, les convictions, ça relève plus du domaine du cartésien, c'est-à-dire que je sais très bien, par la preuve, que si je ne mets pas ma ceinture, et qu'il y a la police, je vais me faire arrêter. Si je vole une voiture, je pars en prison. Voilà. Il y a des conséquences à convictions qu'on peut avoir. Si je mets le doigt sur le feu, j'ai la conviction, par une preuve, que, effectivement, les choses arrivent. Alors qu'en fait, pour moi, la certitude ou l'incertitude, et là, on parle de l'incertitude de l'avenir, de la société, c'est En fait, c'est chacun a son incertitude. C'est très personnel. D'ailleurs, on a une incertitude, puisqu'en fait, on n'a pas de preuve. On ne connaît pas. Donc, si on en avait la conviction, enfin, si on n'était pas incertain, on en aurait la conviction que tout se passerait bien. Et c'est justement parce qu'on n'a pas la preuve qu'on est dans cette incertitude. Enfin, c'est mon... voilà, c'est... pour résumer, en fait, pour moi, les convictions, elles sont prouvées et elles sont concrètes, alors que la certitude de quelque chose, c'est pour ça que les gens qui ont plein de certitudes en disant « Ah non, cette écharpe ou ce manteau est beau, moche ou beau ou... », en fait, c'est que des a priori, en fait. Pour moi, c'est des jugements de valeur. Pourquoi cette religion serait mieux qu'une autre? Pourquoi certaines personnes diront je ne vais surtout pas faire de politique ou de religion, c'est pas le but, mais pourquoi mon Dieu est le meilleur? Bah, en fait, tout simplement parce que ce sont des schémas ancrés et c'est sociétal. Ce ne sont pas des convictions.
Très bien, merci madame. Ouais. Ce qu'on me dit, ça fait penser à une distinction que. On fait habituellement avec Emmanuel Kant en philosophie, mais peu importe le nom propre, entre ce qu'il appelle la certitude et puis ce qu'on pourrait appeler la connaissance ou le savoir. La certitude, effectivement, c'est l'assurance subjective de détenir la vérité. C'est l'assurance subjective d'avoir le vrai. Et finalement, la certitude repose sur une assurance en première personne. Genre, quand je me dis « j'en suis certain » ou « je suis certain d'eux », c'est qu'en gros, je mettrais ma main à couper, etc. Enfin bref, voilà, je pourrais jurer sur je ne sais quoi, d'accord ?« J'en suis certain », c'est-à-dire je m'engage en première personne pour affirmer ceci plutôt que cela. Mais la certitude, comme vous l'avez très bien dit, cette assurance subjective n'est pas la garantie d'une assurance objective. Bien au contraire, on pourrait même penser, ça a commencé à être abordé par quelques interventions ici, que plus je suis assuré subjectivement, plus peut-être je suis en train de manquer une assurance objective. C'est-à-dire que, en gros, je me ferme à la réalité, je m'aveugle sur la diversité des aspects du monde, de la réalité, et finalement je m'enferme dans mes certitudes, de sorte que je manque le rapport au réel, je manque la vérité. Alors que le savoir, c'est une assurance subjective, mais qui repose sur une assurance objective. Quand je dis à un enfant, c'est pas des grandes mathématiques, hein, je ne suis pas avec le chat de Schrödinger, que 2 et 2 font 4, que j'en suis certain, ce n'est pas moi qui en suis certain. C'est qu'il y a une assurance objective, ce sont les lois de la raison, qui font que si j'ajoute 2 à 2, ça fait 4, et qui retranche 2 à 4, ça, je reviens à 2. Bon. Et voyez bien que ici, c'est pas... Et là, on va dire, bah oui, tu as raison. Tu as raison. Et là, pour le coup, il n'y aura pas de débat. D'accord ? Et donc, finalement, la question qui se pose sur la question de l'incertitude, c'est de savoir, est-ce qu'on peut passer la certitude au savoir ? Est-ce qu'on peut, en tout domaine, vous avez évoqué la question des croyances religieuses, la question du jugement de goût, sur les critères ascétiques, enfin, on pourrait prendre d'autres domaines d'existence, jusqu'à, vous avez évoqué la condition humaine, est-ce qu'on peut dépasser la seule certitude pour parvenir au savoir. Qui peut prétendre dire ce que je vous affirme, ce que je vous propose, non seulement c'est certain, j'en suis certain, et c'est vrai. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu ce que vous avez commencé à évoquer, on doit en rester à une position, on va dire, sceptique ou relativiste, c'est pas exactement la même chose, qui consiste à dire, en gros, nous sommes dans des certitudes, nous avons tous des certitudes, mais quant à savoir si ces certitudes sont vraies, quant à savoir si on peut passer de l'assurance subjective à l'assurance objective, bah, point d'interrogation, ou pas. Parce que vous avez commencé à dire, effectivement, peut-être sommes-nous dans une simulation informatique, pourtant je suis vraiment certain d'être en train d'animer un café philo au lycée Jean Zay. Mais non. Ah, c'est bien fait, hein. Mais ils sont forts, hein, nos
Ils sont très très forts, nos descendants. En fait, c'est ça, c'est nos descendants qui...
Oui, pardon, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, notamment ce que vous relevez. Effectivement, moi, je pense que l'incertitude nous permet de vivre tous les jours, parce que comme vous dites, si on était certain, par exemple, demain, je vais avoir un accident et je vais mourir, par exemple, c'est une certitude. Donc, si j'étais sûre, eh bien, je ne vivrais pas comme j'aurais vécu l'événement si je ne l'avais pas su. Donc, je pense que l'incertitude nous ramène à notre condition d'homme, et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est, les hommes, et ce qui nous met à égalité sur tous les plans. Au niveau de... On parlait, vous releviez, madame, sur les personnalités, etc., qui pouvaient nous forcer à croire à leur certitude. Effectivement, je pense que tout le monde est incertain, et on essaye de s'enfermer dans une illusion de certitude, alors qu'en réalité, ce qu'on nous dit, comme vous disiez, 2 plus 2 égale 4, eh bien, on ne peut pas être certain, on ne peut jamais être certain à 1000% de ce qu'on fait.
Merci.
Oui. Il me semble qu'en fait, dans l'incertitude, il y a deux choses différentes. Il y en a une première qui relève un peu, disons, des probabilités, quand on dit à 100%, etc. Et au fond, il y a des choses dont on n'est pas certain, mais juste parce qu'elles sont probables, elles peuvent arriver, pas complètement, on n'est pas sûr. Par exemple, la question du réchauffement climatique, bon, la température qu'il fera dans 100 ans, il y a des probabilités avec des scénarios plus ou moins probables, etc. Et ça, je dirais, c'est une première forme d'incertitude, mais il y en a une deuxième qui est plus embêtante, c'est une incertitude plus dure, qui est souvent liée au fait que on cherche à connaître les autres, on cherche à les comprendre, on anticipe leurs pensées. Je me dis, ben moi je pense que lui pense ça, mais lui aussi se dit, moi je pense que lui pense ça. Et en fait, il y a des espèces de phénomène un peu de spécularité, quoi. Je pense qu'il pense que je pense, etc.
Ouais, c'est le poker, quoi.
Ouais, c'est un peu le poker, mais en fait, 90% des activités humaines, elles supposent de deviner un peu les intentions des autres. On se fait, il y a une opinion publique, et tout ça c'est tellement fragile, tellement précaire, sensible à tellement petits phénomènes que finalement on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain matin pour la plupart des phénomènes humains, quoi. Et là pour le coup c'est une incertitude qui est vraiment beaucoup plus forte, qui finalement fait qu'on a toujours l'impression, je pense, d'être plus ou moins en crise. En fait je pense que le mot de crise est important, et je dirais, avec l'incertitude il y a la crise, on a toujours l'impression qu'en fait tout est en crise, tout part, mais parce que finalement anticiper la suite c'est impossible. Pour des raisons de spécularité. Qu'est-ce que les autres pensent? Si les autres pensent ça, qu'ils pensent que moi je pense ça, etc. Enfin, et c'est comme ça que les régimes politiques, des fois, s'effondrent quasiment instantanément. Et du coup, je trouve que là, il y a une incertitude qui rend beaucoup plus forte que sur les phénomènes matériels, où bon, là, on fait des calculs de probabilité et puis ça passe, quoi. Enfin, ça passe plus ou moins, disons. En tout cas, voilà, je pense que le vrai truc important, c'est ça, que c'est l'espèce de phénomène permanent de spécularité, c'est voilà, je pense qu'il pense, etc. etc.
Mmh. Oui. Je me demande quand même s'il y a vraiment une imprévisibilité des conduites humaines. Si vraiment on peut placer les conduites humaines, comme tu le fais, ce que tu as appelé l'imprévisibilité dure, entre guillemets, du côté de la contingence absolue, d'une incertitude absolue. Je ne suis pas assuré de ce que l'autre va faire demain, et pourtant, quand je fais un peu de sociologie, quand je fais un peu de psychologie, quand je fais un peu d'économie, bref, quand je brasse un peu de sciences humaines, je m'aperçois qu'il y a quand même des tendances fortes. Il y a quand même des tendances fortes qui se répètent d'une cohorte à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'un individu à l'autre. Que, évidemment, ces lois statistiques et sociales, en gros, ce que les sciences humaines et sociales mettent à jour, ne sont absolument pas des lois, comment dire, mécaniques, que le déterminisme n'est absolument pas un fatalisme, que ce n'est pas tous les enfants d'eux deviendront ceci ou cela, mais que quand même, il y a des statistiques qui sont là, il y a des travaux sociologues qui sont là, il y a des travaux psychologues qui sont là, pour nous dire, bah, écoutez... Il y a quand même, je sais pas, sur la reproduction des inégalités sociales à l'école et par l'école, c'était un cours de ce matin avec l'une de mes classes, en montrant des lois statistiques, quoi, de reproduction, d'une génération à l'autre, il y a quand même une sorte de prévisibilité des trajectoires. Peut-être pas à l'échelle individuelle, mais en tout cas à l'échelle collective. Ça ne veut pas dire, encore une fois, enfin, c'est la question que je pose. Est-ce que vraiment la conduite humaine échappe à toute certitude ou non? Est-ce qu'il faut qu'elle échappe? J'allais dire, les sociétés d'assurance jouent là-dessus. Pourquoi est-ce que je paye une assurance? Parce que il y a la prévisibilité. Je ne sais pas si demain mon appartement ne va pas prendre feu, ne sera pas pris par une inondation de la loi, etc. Et en même temps, la société d'assurance, elle sait très bien que normalement elle s'y retrouve un petit peu, elle gagne un peu d'argent, même plutôt bien d'ailleurs, parce qu'en fait, elle sait très bien que la probabilité pour que ça devienne est quand même relativement faible. Sauf avec le cas du réchauffement climatique, où on voit bien que les sociétés d'assurance commencent à se dire, en fait, on va peut-être plus vous assurer, ou on va monter très très haut les cotisations, parce que votre maison elle se fissure et que nous on n'est plus là quoi.
Oui madame.
Ah pardon, madame. Et ensuite madame et monsieur. Oui.
Bonjour.
Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur la notion d'incertitude. Est-ce que l'incertitude c'est avoir raison, être persuadé? Peut-être qu'il ne faudrait pas que je pose les deux. Enfin, je ne sais pas trop, mais je voudrais prendre l'exemple de la persuasion, notamment en étant... Peut-être en étant enfant, on a tous déjà rêvé être contrôlés comme des Playmobil sur un monde qu'on a chez nous. Est-ce qu'on ne devrait pas, comme cet enfant, se contenter de ses certitudes, de savoir que peut-être que oui, mais en ce moment, ça va, moi je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut. Et du coup, avec cette deuxième notion du bonheur, on voudrait avoir la certitude qu'on va accéder au bonheur. Mais on est toujours, aujourd'hui encore, je pense, dans l'incertitude de savoir si on pourra toujours avoir plus, parce que c'est propre de l'humain de toujours vouloir plus, et encore plus, et encore plus. Donc, est-ce que ce serait pas justement être dans le bonheur que de se contenter de notre condition? Et c'est surtout de... Est-ce que le fait qu'on cherche quelque chose, qu'on ait un but, c'est ça en fait, est-ce qu'on a un but à atteindre, en fait ça fait peur, peut-être qu'on s'y accroche aussi beaucoup pour tenir, et est-ce qu'on peut y arriver? Oui, non, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette incertitude? Est-ce que même elle est gérable, ou est-ce que justement il y a cette notion de peur qui nous englobe et qui nous prend et qui nous tire vers l'arrière peut-être même? Voilà.
Merci. Ce que vous mettez en avant, c'est effectivement le lien étroit entre la certitude ou l'incertitude à avoir et la quête de vie heureuse. Effectivement, ce confort de la certitude et en même temps cette incertitude qui est aussi une promesse d'un bonheur à venir et qui est très bon.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, en fait, est-ce que la certitude ne serait pas en fait une forme en fait de contrôle pour éviter en fait une forme de chaos aussi? C'est une question que je me pose.
Un contrôle pour éviter une forme de chaos. Ok. Merci.
Ah oui.
Pour rebondir par rapport à ce que vient de dire madame. Le chaos dans le sens collectif, on a commencé par physique quantique, l'électron individuel, on est passé à madame, à la personne individuelle aussi, et vous avez parlé de l'objectivité, où la trouver, et ça m'amène à la réflexion, finalement, est-ce que l'incertitude n'est pas individuelle, et la certitude collective. Moi, en tant qu'individu, je me sens libre, plus libre que si j'étais au milieu d'une foule. En tant qu'individu seul, je me sens plus libre, donc il y a une certaine angoisse, une certaine incertitude. Mais moi, au milieu d'une foule, avec des probabilités, je vais forcément entrer dans le moule et je vais trouver une certitude parce qu'elle est collective et rassurante. D'où le principe de la démocratie est de trouver, dans le dialogue et l'échange, une contrainte collective et acceptée, qui est rassurante.
Ce qui fait écho un peu à ce que vous disiez en, en remarque liminaire. C'est-à-dire que la crise que nous traverserions serait peut-être une crise des certitudes, au sens où cette crise des certitudes collectives remettra en cause le principe même d'un ordre social et d'une vie commune possible.
Comme disait madame, monsieur, dans la physique quantique, effectivement, l'électron seul, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il va s'arrêter, mais une masse d'électrons, par la loi, là on passe sur la loi des probabilités. On sait ce qui va arriver plus ou moins.
Merci. Je veux dire s'il n'y a pas de
questions. Oui, bien sûr. Mais si j'ai déjà parlé, donc je
suis... Non, mais...
Alors, si je peux y aller, je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit et madame juste avant. Oui. Je crois qu'il y a quand même des certitudes personnelles, individuelles, même si j'aime pas trop le mot individu, mais ce que j'ai fait hier, même si j'étais tout seul en randonnée et que j'ai croisé personne, ben j'en suis certain, ça a existé. Et la notion de certitude, elle... Oui. Alors, j'ai pas retrouvé la citation, c'est pour ça que j'étais un petit peu sur mon téléphone. J'ai pas retrouvé la citation, et ça m'embête un peu, mais il y avait une prof de philo qui nous avait cité un auteur qui disait « Quelqu'un qui doute du réel, il faudrait le taper avec un bâton jusqu'à ce qu'il vous demande d'arrêter. » Donc il nous disait aussi « Quand vous traversez la route et que vous êtes sur le passage piéton et qu'il y a un bus qui vous fonce dessus, vous n'êtes pas en train de vous demander s'il existe, vous vous écartez avec un petit peu de peur pour votre vie. »
Je me permets juste, c'est comme on est dans les citations... cette phrase, je parle sous l'autorité de Laurence, du psychanalyste français Jacques Lacan. Lacan, la grande éloquence, on le reconnaît, je ne vais pas mimer Jacques Lacan. Et Lacan dit, mais qu'est-ce que le réel? Après, il s'arrête pendant un quart d'heure, puis il reprend. Qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est quand ça cogne. Voilà. Le réel, c'est quand ça cogne. C'est-à-dire que le principe de réalité, c'est que précisément, là, il y a un mur. Voilà. Et je. Alors, sauf simulation, on peut remettre en question ça, mais voilà, ça colle, c'est là. Et le réel, c'est précisément ce qui fait violence à mes convictions profondes, à mes attentes profondes, et qui force mon assentiment. Il y a une violence du réel. Le réel, il s'impose à moi, ce principe de réalité, il s'oppose à mon principe de plaisir, il est là, bam. Et ça, j'en suis. Certains, j'en suis certain, je l'éprouve. J'allais dire, comme vous le dites très bien, quelqu'un qui remettrait ça en question, il faudrait le cogner. Jusqu'à temps, il faut cogner personne. Hein, voilà, jusqu'à temps que, bah ouais, tu vois bien. Voilà, ça, c'est pas une illusion.
Et du coup, je voulais finir en disant que la certitude est quand même. La notion de certitude, là, est vachement liée avec la notion de vérité. Et on est probablement dans une crise de la vérité, ça a déjà été dit. Mais il n'empêche qu'à un moment, la question de madame, c'était est-ce que. On n'invente pas des certitudes pour éviter un chaos, mais bon, d'abord, s'il n'y a pas de certitude, c'est une certitude qu'il n'y a pas de certitude. Enfin, voilà, est-ce qu'on est, quand on dit qu'il n'y a pas de vérité, soit on ment, soit on dit la vérité, mais du coup, bah, c'est certain qu'il se mord la queue. Donc en fait, à un moment, il y a une vérité qui doit s'imposer, il y a une réalité qui s'impose d'elle-même, avec la réalité aussi, mais il y a des raisonnements, ne serait-ce qu'une certitude de raison, ce qu'on avait dit de fond 4, bon, jusque-là. À partir du moment où on s'ancre dans le réel, on a ce principe de vérité qui arrive. Il y a deux mouvements en philosophie qui sont possibles. Il y a partir de la réalité et venir à soi. Et puis il y a partir de soi et aller vers la réalité. Le deuxième est plus complexe, hein, c'est Descartes. Mais si on part du réel, on est ancré, on existe. Voilà. Moi, je suis devenu papa il n'y a pas super longtemps. Ma fille, c'est pas un cerveau qui baigne dans une... Je l'ai vu naître et... je la vois grandir, se développer, s'émerveiller et acquérir du langage, du mouvement.
Bien sûr. Une position qu'on appelle réaliste sur le plan philosophique, oui. C'est-à-dire que le réel, il est là, il est stable.
Merci. Je reprends la parole, mais je crois qu'il y a eu des précédents. je voulais revenir sur deux, trois choses qui ont été dites. Par la dame qui est derrière la propos des certitudes, ça me fait penser à une phrase qui est une boutade qui est il savait pas que c'était impossible, là, ils l'ont fait. Bon, c'est une forme de boutade, mais je pense que derrière, il y a quand même aussi le fait que si on a trop de certitudes ou si on a une certitude particulière, ben c'est une barrière, c'est un frein en fait. Je voulais revenir aussi sur votre expérience de physique. C'est pas un café physique, c'est un café philo, mais bon. En physique quantique, on en a parlé déjà ce soir, il y a une probabilité non nulle que le trousseau de clés ne tombe pas. Elle est faible, mais elle existe. Et puis, dernière chose que je voulais dire, en industrie mécanique, quand on usine des pièces, on a besoin d'une certaine dimension sur une pièce, mais en fait, on se moque un peu de la dimension réelle et on se donne des limites sur cette dimension. Ça peut être plus ou moins quelque chose, ça rejoint un peu les statistiques ou les probabilités dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire qu'on accepte dans une certaine limite de ne pas savoir. Et ce qui est assez marrant, je trouve, c'est que ce fait-là, ça s'appelle la tolérance en industrie mécanique. Je pense qu'on peut peut-être transposer des choses à la société humaine.
Mmh. Merci. Merci.
Oui. Oui, eh bien, je reprends la parole. Parmi les vérités ou contre-vérités qui, moi, personnellement, m'ont vraiment scotché, je voudrais en citer quelques-unes. D'abord, je ne sais pas que ça existait, mais certains croient que la Terre est plate, et un nombre important de personnes, semble-t-il, plus encore aux États-Unis, c'est un pourcentage qui doit dépasser 20%. Autre vérité, contre-vérité, le réchauffement climatique est un canular. Et je pourrais en citer aussi une autre, les chambres à gaz n'ont jamais existé. Voilà, donc on est libre chacun de croire ce que l'on veut, en fonction de plein de choses. Je voudrais juste signaler que quand on répercute dans les réseaux sociaux des contre-vérités de ce type, ce n'est pas sans conséquence pour l'avenir de l'humanité. Je veux dire que si vous soutenez que le réchauffement climatique n'existe pas, que vous soutenez que les chambres à gaz n'existent pas ou n'ont jamais existé, c'est pas sans conséquence. Et voilà, c'est juste ce que je voulais pointer ce soir.
Merci beaucoup de porter le débat sur l'enjeu moral de la question. Effectivement, nier la réalité, ça n'est pas sans effet. Ce pourquoi aujourd'hui on ne parle plus, vous savez, on parlait des révisionnistes dans les années 80, du siècle, pour évoquer celles et ceux qui remettaient en cause l'existence même des chambres à gaz, et donc, par conséquence, de l'extermination des Juifs d'Europe ou de la Shoah. Mais précisément, le terme était mal choisi, parce que le travail même de la science est de réviser les vérités établies. Le scientifique révise, il ne fait que ça. C'est vrai jusqu'à preuve du contraire, et toute théorie scientifique doit s'exposer à des révisions possibles. Alors que là, on n'est pas dans une révision, c'est une sorte d'incertitude dynamique, c'est une sorte de doute épistémique qui est au moteur même de la construction du savoir. Alors que là, dans ce que tu évoques sur les négationnistes de la Shoah, ou les négationnistes, même pas du climato-scepticisme, c'est du climato-négationnisme, d'accord ? Sur le négationnisme du réchauffement climatique, là, on a un enjeu moral. On voit bien que si l'on dit à l'humanité, à une communauté, à des victimes, ces faits n'ont jamais eu lieu, ça n'a jamais existé, c'est un pur produit de ton imagination ou c'est un pur complot, orchestré par je ne sais qui et je ne sais quoi, je ne sais où, on ajoute de la violence à la violence et on commet une faute morale. Donc effectivement, peut-être y a-t-il des certitudes qu'il faut maintenir coûte que coûte, parce qu'il en va non seulement de l'avenir de l'humanité, comme tu le disais pour le réchauffement climatique, il en va même de la dignité de l'humanité, de sa valeur intrinsèque, il en va de la morale elle-même. La parole de la victime ne peut pas être niée sous prétexte d'une incertitude épistémique.
Quand je repense aux discussions, on a décliné la notion d'incertitude sous différents aspects. On a parlé de l'incertitude au niveau de nos sociétés actuelles, de ce que l'on vit dans le contexte politique, le contexte social. On a parlé des incertitudes en statistique.
Il y a un autre terme proche, qui est appliqué aussi en statistique et qui me semble pas peu avoir entendu, c'est la confiance. On parle de, en statistique, on parle d'intervalle de confiance quand on s'intéresse aux incertitudes, mais la confiance, c'est aussi quelque chose qui s'applique à beaucoup d'autres situations qu'on a évoquées. On a parlé de la foi religieuse qui est une forme de confiance, on a parlé de promesses. Donc là aussi, en fait, une bonne partie de notre société, de nos interactions et de la façon dont on vit, c'est basé sur la confiance. Je travaille, j'accepte de donner de mon temps à une entreprise et j'ai confiance dans le fait qu'elle va me payer à la fin. Il y a un contrat et c'est ce contrat qui est la base de la confiance. La confiance, c'est aussi, c'est pas seulement la confiance en les autres, en leurs intentions, mais c'est aussi la confiance en soi. C'est la confiance, alors je ne vais pas revenir sur la confiance en le fait d'exister, mais c'est la confiance en mes capacités aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? On a parlé de l'avenir et de l'incertitude de ce que l'avenir nous réserve. Il y a peut-être, je pense, à réfléchir donc sur cette notion de confiance en l'avenir, confiance en ce que moi je peux y apporter, confiance en le fait que les gens autour de moi veulent un avenir proche du mien, de ce que je souhaite, ou pas. Il y a des désaccords, on n'est pas d'accord sur ce qui est le plus désirable, mais qu'au moins je puisse avoir confiance en mon entourage, en les gens qui sont autour de moi pour avancer. Et donc c'est pour ça que il me paraissait important que le terme de confiance justement soit évoqué quand on parle d'incertitude. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça me paraît important d'aborder la notion.
Merci.
Merci. Madame.
Ah.
Pardon, on va dire les cas, celles et ceux qui n'ont pas encore parlé, puis là, on vous redonne le micro, bien sûr.
Bonsoir. Deux choses à dire par rapport à la confiance. Déjà, est-ce qu'on peut avoir confiance sur les scientifiques? Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui ont été dites dans les années 50 par rapport à la cigarette, que les gens disaient que ça n'est pas du tout du cancer. Et c'était prouvé par des scientifiques, alors qu'en fait, ils ont été payés. L'université d'Oxford, je pense que c'était au Harvard, et qui en fait ont été payés, et que des années après, et c'était tout à fait prouvé que ça donnait du cancer. C'était pareil par rapport au sucre. Et du coup, est-ce qu'on peut faire confiance aux scientifiques? Par exemple, à nos jours, on pensait que le système solaire il était composé de cette planète, alors qu'ils ont bien de dire « Ah non, il faut en plus rajouter encore une autre planète, donc il faut changer la carte, le livre. » Et aussi par rapport à la confiance de soi. Et parce qu'on est certain sur le passé, par exemple, si j'étais une mauvaise personne, par exemple avec telle personne, okay. Je suis certaine de ça, mais est-ce que je laisse que cette certitude laisse présenter mon avenir, mon futur? Est-ce que je laisse que, jusqu'à quel point je laisse que cette certitude domine ma vie?
Juste ça. Ouais,
vous mettez l'accent sur ce que vous avez évoqué également sur la question du doute. Finalement, jusqu'à quel point, vous voyez bien, toutes ces notions finalement sont très liées les unes aux autres, jusqu'à quel point le doute est-il légitime, est-il crédible, est-il bénéfique? Quand vous avez évoqué au début de votre intervention toutes ces enquêtes sur l'absence de méfaits des cigarettes, la consommation de tabac ou d'alcool ou de sucre, effectivement, ça me fait penser à un bouquin qui a eu un certain retentissement il y a déjà quelque temps, une enquête sociologique sur ce que les auteurs appelaient les marchands de doute. Les marchands de doute, c'est-à-dire ces scientifiques, alors là, j'aurais plutôt tendance à mettre des guillemets, mais en tout cas qui ont un bel et bien un statut, en tout cas qui est socialement reconnu comme étant scientifique, produisent des études pour instiller le doute. Pour instiller le doute, pas sûr que le tabac, ça génère telle ou telle cause, enfin tel ou tel effet, pardon, pas sûr que l'alcool, pas sûr que le sucre, etc. De sorte que finalement, on se sert d'une sorte de perversion du doute qui est au moteur même de la construction scientifique, comme je disais tout à l'heure avec la question de la révision des théories scientifiques, on se sert donc de ce doute scientifique pour maintenir un statu quo. Comme on n'est pas sûr, bah, je ne vois pas pourquoi est-ce que le législateur prendrait des mesures, parce qu'on est incertain, et donc ça permet aux cigarettiers, aux marchands d'alcool, aux grandes entreprises de l'agroalimentaire spécialisées dans le sucre, de maintenir leur marché à partir d'un doute qui, normalement, ne devrait peut-être pas se poser. Donc là, quand même, voilà, vous voyez, on a aussi une incertitude qui peut être manipulée à des fins, j'allais dire, en l'occurrence ici, économiques, mais à des fins qui ne seraient pas forcément socialement légitimes. Oui, monsieur.
Je crois quand même que dans certaines civilisations, ils ont essayé de réduire les incertitudes. Si je me réfère à la civilisation chinoise, où il y a quand même un principe avec le fameux symbole yin-yang, c'est-à-dire que tout se transforme, rien n'est vraiment stable, et ils ont quand même mis au point un système qui s'appelle, je crois, le yi-ting, où il y a 64 hexagrammes, et c'est un instrument qui permet, je pense, quand même de bien réfléchir aux questions qu'on se pose, parce qu'à chaque fois qu'on se pose une question, on la prend dans un sens, et après, on la prend dans l'autre. Et à partir de là, il y a un tirage qui se fait avec des tiges ou des achillées, où on lance les dés et on compte. Et à partir de là, on peut arriver peut-être à prendre des décisions un peu plus, j'irais entre guillemets, éclairées.
D'accord, j'avoue, je...
C'est un système divinatoire.
Je connais pas.
Oui, au départ, ça faisait appel à la divination, mais petit à petit, ils ont réussi à concentrer ça. Je sais qu'il y a un livre, pour ceux qui s'intéressent, qui est écrit par Cyril Javary. Voilà, c'est un sinologue.
D'accord. Très bien. Cyril Javary, vous dites ?
Oui, Cyril Javary, J-A-V-A-R-Y.
D'accord, merci monsieur.
Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les cigarettes, moi j'avais dans l'idée que dans la certitude, vous avez utilisé le mot manipuler, et je pense que même si on a eu une éducation avec des bases, etc., justement, quelquefois, on est dans l'incertitude parce que on ne sait pas si on est manipulé. Même dans une foule, quand on se dit bah oui, je suis plus sûr parce que les autres pensent comme ça aussi, mais moi je pense qu'on est dans une époque où quand on lit certains livres, je donne un exemple, Les ingénieurs du chaos, ce sont des faits réels qui sont rapportés. Et on se dit qu'il est quand même facile de manipuler les foules. Et donc, on est dans l'incertitude de ce qu'on pense quelque part, parce qu'on ne sait jamais si on n'est pas... Je sais que c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas avant, dans l'air du temps. On était sur certains ou pas certains, point. On ne se posait pas autant de questions que maintenant.
Merci. Merci. Monsieur, vous avez demandé la parole.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Merci.
Regardeur, je suis un peu le maître des horloges, il est 20h20 bientôt.
Je serai bref. Voilà. Alors, j'aimerais réaborder le sujet de la vérité. Voyez-vous, la vérité n'est considérée comme... La vérité n'est vérité que si on la considère comme telle. Ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que la considérer, la vérité, pas figée. Au contraire, elle est malléable et elle peut toujours être réécrite, notamment en groupe. Si par exemple on reprend l'exemple des platistes, vous et moi, nous tous ici présents, nous savons évidemment que la Terre est plate. On est d'accord. Mais maintenant, imaginez-vous être tout seul au milieu d'une réunion de platistes. Alors là, vous passez de l'autre côté du miroir. O devient bas. blanc devient noir et le bien devient mal. Et alors, dans ce cas, ce sera vous, l'idiot du village, puisque la notion même de réalité sera inversée. La vérité sera purement et simplement réécrite. Finalement, je crois qu'on peut résumer ça à une seule et unique question. Si on est la dernière personne censée sur Terre, est-ce que ça signifie qu'on est fou ?
Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie que de croire ne pas être fou.
C'est la folie ce que vous dites.
C'est pas moi, c'est Blaise Pascal. On est français.
Moi, je voudrais rebondir justement sur cette question de la folie, parce que autrefois, en psychopathologie, pour la structure paranoïaque, on parlait de certitude délirante. Celui qui était certain d'avoir raison, il était fou, il était paranoïaque. Et aujourd'hui, en psychopathologie, ces questions de structure psychique n'existent plus. Il y avait trois grandes structures, après psychose, perversion et névrose. On a rajouté l'autisme comme quatrième structure pour l'interrogation. Maintenant, on est dans des troubles répertoriés par le DSM, des Américains, 116 troubles ou je ne sais plus combien maintenant. Et je me disais que ça allait avoir avec le flux de notre temps. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose de structuré à quelque chose de trouble. Et pour nous, les humains, ça nous oblige à trouver en nous, chacun, un point d'appui. Et c'est ça qui fait défaut, c'est-à-dire que Dieu est mort, ou pas d'ailleurs, hein, chacun a sa conviction personnelle, mais comment on construit et comment on aide les jeunes d'aujourd'hui à se construire des points d'appui qui leur permettent de vivre dans le monde en doutant et en mettant en question les certitudes que les paranoïaques qui nous dirigent leur assènent au fil des heures.
Merci beaucoup. Merci.
Je vais revenir sur pas mal de choses, notamment le fait qu'on se donne des certitudes à soi-même et à mon sens pour se rassurer, pour savoir comment vivre demain, avoir un peu de prudence, prendre le gaz quand on a fini de préparer à manger ou des choses comme ça pour éviter qu'il y ait le feu. Là où je trouve aussi que c'est plus angoissant aujourd'hui, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que, notamment avec la mondialisation, le monde est devenu beaucoup plus complexe. Il y a des interactions entre les différents pays, que ce soit aussi à l'échelle écologique, qu'il n'y avait pas forcément avant. Des choses qui avaient des impacts à des échelles beaucoup plus réduites aujourd'hui ont des impacts planétaires. Donc ça devient plus difficile de prévoir un certain nombre d'événements, par exemple météorologiques. Et par ailleurs, on est aussi beaucoup plus bombardé d'informations qu'avant. Il y a une génération d'informations sur les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça, qui fait qu'on a beaucoup plus d'informations qui peuvent aussi être contradictoires et ça devient plus difficile de savoir sur quoi baser nos certitudes. Et je pense que c'est ça aussi qui est angoissant. Et en plus, bon, au-delà du statut de la vérité, mais au-delà de ça, le monde aussi. Le monde accélère, la technologie aussi accélère, avec les IA aussi. Et donc, tous ces facteurs sont réunis pour qu'en fait, on soit beaucoup plus facilement perdu qu'à une époque où avant, il y avait peut-être aussi en effet des religions qui nous proposaient une vision du réel à laquelle on pouvait adhérer, qui nous rassurait en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus perdu, il y a beaucoup trop d'offres, beaucoup de gens qui promeuvent une vérité, et savoir à quoi nous raccrocher, ça devient plus difficile.
Merci. C'est une dernière prise de parole. Oui, madame.
Oui, oui. Ça va générer de frustration.
Oui, je voudrais revenir sur ce que madame, au fond, a dit, sur comment construire un point d'appui dans cet océan d'incertitudes pour lesquelles elle n'a tellement pas beaucoup de légitimité, mais je vois même, donc je vais essayer de donner un petit une petite réponse. Se construire un appui, c'est, je pense, de plus en plus compliqué. Et on revient encore à ce que monsieur disait sur, sur la multiplication des offres aujourd'hui. C'est très compliqué, mais c'est aussi savoir construire, déconstruire plein d'idéaux, plein d'idées, à nous de cueillir ce en quoi on croit, de faire nos recherches aussi, de cette quête de vérité, encore une fois. Et je pense que ça a aussi un besoin aujourd'hui de vouloir tout maîtriser et d'avoir cette constante pression, on va dire, d'avoir la vérité. Et je pense qu'on ne devrait pas mettre la vérité avec un grand « là », mais plutôt les vérités et le fait que chacun a peut-être la sienne et qu'on ne devrait pas s'arrêter à une seule représentation du monde, mais peut-être élargir notre champ des possibles.
Merci beaucoup. Merci. Juste un petit mot pour... pour conclure et je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de proposer, madame. C'est quand même un drôle de sujet, finalement, qui, comme vous voyez, brasse des domaines qui sont à la fois très reliés et assez éloignés. On est à la fois dans un domaine, d'épistémologie, si on voulait employer des mots techniques, c'est-à-dire de terminer la connaissance. À quel moment peut-on dire j'en suis certain et c'est vrai et j'ai raison? Ou est-ce qu'au contraire, on doit pratiquer un doute systématique? Ce sont des enjeux en termes de connaissances, des enjeux moraux que vous avez évoqués, des enjeux existentiels sur la question de cette assise dont nous aurions peut-être besoin pour construire pour nous une vie qui soit pas forcément signe d'angoisse et de peur, et des enjeux sociaux sur la question du chaos, tout en croisant la question de la confiance. Donc finalement, on voit bien que cette notion d'incertitude, elle est finalement au fondement, de notre rapport à la réalité. Pourquoi ? Parce que, j'y reviens, elle est peut-être consubstantielle de notre condition humaine. Nous sommes, comme tout vivant, des êtres voués à un avenir qui n'est pas écrit, et nous en avons conscience. Nous avons conscience de la certitude du passé, nous avons conscience, comme tu disais, Sylvain, des relations que nous nouons avec autrui et des attentes que nous pouvons avoir à leur égard et des attentes qu'ils peuvent avoir réciproquement à notre égard. Et pour autant, tout ça est marqué du sceau de l'incertitude. Comme si finalement, il y avait une sorte de contingence constitutive de notre condition. C'est ce que les philosophes sceptiques grecs de l'Antiquité ont mis en avant. Je me permets pour conclure cette petite anecdote. Du maître du scepticisme grec, il s'appelait Pyrrhon, P-I-Y-2-R-H-O-N. Et vous avez c'est une anecdote qui est sans doute légendaire, d'accord. Pyrrhon a un disciple, Pyrrhon a un maître, et maître en scepticisme. Le scepticisme, c'est cette doctrine qui nous dit qu'il faut douter de tout. Et la devise du scepticisme, c'est peut-être. Peut-être que oui, peut-être que oui. Et donc, il se promène, Pyrrhon, et puis il voit son maître qui est dans le fossé, et qui demande, il demande à l'aide. Il est dans le fossé, il dit aide-moi, aide-moi. Lui, je sais pas, il s'est tordu la cheville, bref. Il a besoin de secours. Et Pyrrhon le regarde. Et il s'en va. Et d'autres disciples du maître viennent en secours à ce maître. Ils font reproche à Pyrrhon en disant « Mais tu es inhumain. Quelqu'un te demande à l'aide et toi tu t'en vas, tu ne lui portes pas secours. » Et vous avez évidemment compris le sens de l'anecdote. Qui félicite le maître? Évidemment Pyrrhon en disant « Tu es un sage sceptique. Rien ne te prouvait que j'étais bel et bien devant toi. Rien ne te prouvait que j'étais bel et bien celui que je prétendais être. Rien ne te prouvait que j'étais bel et bien en train de te demander de l'aide. Tu as pratiqué le scepticisme jusqu'au bout. Tu as douté de la situation. Et tu es parti. Tu es sage en scepticisme. » Et finalement, la question qui se pose, au-delà de cette anecdote qui peut prêter à sourire, qui est encore une fois sans doute légendaire, c'est est-ce qu'on doit vraiment donner raison à Pyrrhon? Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où le doute s'instille dans tous les aspects, dans toutes les capillarités, de notre existence, jusqu'à ne pas porter secours à celui qui en aurait besoin? Autrement dit, est-ce que nous ne sommes pas en train par ce doute, par cette incertitude organisée, ne sommes-nous pas en train finalement de basculer du côté de l'inhumanité, de la perte, tu l'évoquais, de sens moral, de la perte, j'allais dire, tout simplement du rapport au réel, du rapport à l'autre, par un doute qui deviendrait peut-être un doute délirant, me semble-t-il, un doute délirant, jusqu'à douter de ce qui semble être absolument indubitable, à savoir que les faits sont les faits, et que lorsqu'un homme, une femme me demande de l'aide, il n'est pas possible de douter du secours que je me dois de lui donner. En d'autres termes, peut-être que le doute a ceci à la fois de vertueux, qu'il ouvre un espace de liberté, qu'il ouvre, vous l'avez dit, l'horizon des possibles, qu'il me permet effectivement d'écrire une vie qui n'est pas déterminée à l'avance, comme s'il y avait un rapport de causalité qui faisait de moi un maillon d'une chaîne que je ne pourrais pas décider, comme si finalement il y avait une sorte de fatalité, de destin qui s'imposera à moi. Donc ce doute, à la fois, il ouvre l'horizon des possibles, et en même temps, ce doute, il peut aussi conduire à des délires complotistes, il peut aussi conduire à des négations qui ne devraient pas être, tu évoquais la question du négationnisme, il peut aussi conduire à une attitude qui est proprement inhumaine, à savoir être indifférent au nom de cette absence de certitude, à la misère et à la demande de l'autre. Et finalement, je voudrais juste terminer par une référence. J'avais Socrate en tête, puis on a laissé Socrate de côté puisque l'heure tourne. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Socrate, « Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. » Et je voudrais simplement vous proposer, c'est une petite citation que je trouve assez parlante et assez riche, de Gustave Flaubert, l'écrivain. Vous savez que Flaubert a écrit un dictionnaire des idées reçues, un petit dictionnaire des idées reçues, après Bouvard et Pécuchet, et à B comme bêtise, et ça sera ma conclusion, B comme bêtise, Flaubert écrit « La bêtise, c'est de vouloir conclure. » Merci.